France Inter.
France Inter, il est 11h04, c'est la bande originale à vous, Nagui.
Merci Amélie Perrier, on vous retrouve tout à l'heure à midi pour d'autres infos. C'est la bande originale, figurez-vous. Amandine Lourdel, Julien Santini, Paul Delas,
hello,
Daniel Morin,
coucou Santini,
et notre invité Bérénice Béchard.
Bérénice, Leïla Kadour et Nagui.
Bienvenue Bérénice. Ravi de vous accueillir pour ce film dont on avait évoqué la sortie la dernière fois que vous étiez venu, c'est-à-dire hier. Mexico 86, et on est ravis. D'autant que le film est impressionnant. Jusqu'où une maman peut aller pour ses idées politiques et pour protéger son enfant. Petit tour de table d'ailleurs. Ah là là. Sur vos mamans, non, sur vos... Non, vous allez bien Bérénice?
Oui, pardon. Je vais bien, merci Nagui.
Petit tour de table, Lisa, est-ce que ta maman serait prête à tout pour?
Bah pour moi, je pense que, enfin déjà.
C'est vrai, au niveau du boulard, ouais.
Bah
ouais.
Non, mais vraiment, vrai. Je pense que elle serait prête à tout pour moi, même.
Ok. Non, mais il y a pas un combat, il y a pas un truc qui où elle pourrait descendre dans la rue, prendre les armes.
Oh, je pense. prendre les armes, ce serait.
Tu es Daniel Morin.
Enfin, oui, truc, bah ça pour rien du tout, même. Enfin, voilà. Si vous avez un prix, je pense qu'il y va. Je pense pour elle est ma mère est directrice d'école, donc je pense qu'elle ferait beaucoup pour
ses élèves.
Ouais, pour ses élèves.
Très bien. Rebecca Balestra.
Je pense que toutes les mères sont prêtes à tout.
Bienvenue à cette conférence. Mères,
absolument. Je porte des lunettes alors que je suis
aujourd'hui.
Non, mais ma mère, par exemple, ma mère, cette semaine, j'avais absolument besoin d'un collier pour cette chronique et c'est ma mère qui l'a trouvé. Elle a écumé tous les marchés, tous les magasins et je leur remercie beaucoup.
Donc elle est prête à aller au marché.
Elle est prête à aller au marché.
Elle est prête à aller au marché.
Alors qu'elle n'a rien voulu donner d'elle-même.
Oui, c'est ça.
Elle préfère, voilà.
Elle préfère acheter.
Amandine Lourdel.
Bah non, je sais pas. Moi, elle me dirait, tu t'es mis dans la mouise, tu te débrouilles. Attends, t'es grande maintenant.
Il y a pas un combat, il y a pas un truc. Est-ce qu'elle a déjà manifesté déjà? Est-ce qu'elle était dans la
rue? Non, je crois pas que ma mère est l'âme militante. Hein. Non, je ne sais
ni
pas.
Ni combattante. Trop.
Non, on est plutôt des natures contemplatives, tu vois.
Est-ce que ta maman
non, y
pourrait...
Non, il n'y a pas beaucoup de place pour la contemplation. On est plutôt sur un engagement très profond sur des sujets, alors le Darfour, les trucs vraiment politiques, géopolitiques.
Mais en action les
opprimés,
en conversation.
Les opprimés dans le monde, c'est ça?
Ouais, et vraiment à se documenter, à vouloir comprendre et être très très contre l'injustice. Justice en général, mais vraiment quelque chose de très viscéral, quoi.
Ouais. Mais ma maman prof rejoint un peu l'idée d'Athènes. Je pense qu'elle se serait battue pour ses élèves.
Ouais.
C'est-à-dire même contre l'autorité du bahut lui-même. S'il y avait une élève qui était un peu en porte-à-faux et convoquée ou autre, elle était du côté de plus de l'élève que de l'autorité. Ouais. Daniel.
Oui, ma mère, bon, elle serait prête à descendre dans la rue pour arrêter la guerre, la guerre dans le monde, la faim dans le monde et toutes ces choses horribles.
On attend la chute. C'est tellement
ça
crédible.
Ouais.
Non, elle s'en fout.
Non.
Totalement.
Mais zéro combat.
Non, zéro. Le mien, peut-être, elle aimerait que j'arrête. C'est son combat.
Moi, ma maman, elle est très douce, mais je pense qu'elle déploierait une force herculéenne s'il nous arrivait quelque chose. On est tous d'accord pour dire que, enfin, la famille et les gens qui la connaissent pour dire qu'elle serait prête à soulever une voiture, qu'elle pourrait soulever une voiture.
Pour sauver un de ses enfants.
Ah, mais sans aucun souci. Ouais. Elle a un truc comme ça en elle.
Un côté Hulk, quoi. En fait.
Exactement, Hulkette.
Côté garagiste. Soulever une bagnole.
Avec un cric. C'est un cric, tout simplement.
Ma mère,
cric, on l'appelle le cric,
on l'a fait. Tu changes les 4 nœuds en 25 secondes.
Génial.
Oui, j'espérais qu'on
oublie. Vous n'avez pas le droit sur les mamans.
Mais je sais pas.
Ta maman.
Non, c'est un mélange de toutes vos mères, j'ai trouvé.
Voilà.
Waouh.
T'as jeté un froid.
Un froid.
Je t'avais dit qu'il cassait l'ambiance.
Déjà, tu parles pas comme ça de ma mère.
Tu mélanges pas ma mère.
Moi, tu mélanges pas non plus.
Bérénice, est-ce que votre mère serait prête à prendre des armes comme dans Mexico 86 ou, et si oui, pour quelle cause?
Bah, ma mère, elle a.
Ça va être long, cette émission.
Je ne pensais pas dès le matin. Non, mais ma mère, elle a sacrifié. Mes parents, ils ont sacrifié. Leur vie, enfin, d'une certaine manière, ils ont quitté leur pays, ils ont quitté leur famille, leurs amis, ils ont plus un truc de sacrifice, parce que ils sont pas restés en Argentine pendant la dictature, donc ma mère, elle s'est battue, je connais pas bien l'histoire, donc je sais qu'elle s'est battue, mais à un moment donné, elle a préféré partir, en fait. Donc, elle a.
C'est particulier de dire je connais pas bien l'histoire. C'est-à-dire que c'est. Ouais. Il fallait pas en parler, c'était.
C'est pas qu'il fallait
fragile,
pas en parler, c'est que. On a été élevés d'une manière où. Je me rappelle, j'avais parlé avec une psy comme ça à un dîner. Et elle m'avait dit. Bon, si ma mère elle écoute cette émission, ça va là. Elle m'avait dit, bah, en fait, tes parents, ils ont tout fait pour que, de toute manière, tu ne poses pas de questions. Mmh. Je sais pas comment expliquer. Ouais, je peux pas expliquer.
C'est une génération déjà.
Ouais,
ça,
voilà.
L'histoire est souvent à trous dans beaucoup de familles d'ailleurs.
Et donc quand je posais une question, si jamais j'en posais une, il y avait une blague après, puis on enchaînait sur autre chose. Mm. Donc j'ai grandi sans vraiment pouvoir poser de questions. Et quand j'ai commencé à me poser des questions, et ben depuis quelques années, je fais des films qui parlent de secrets,
carrément.
Et qui font que maintenant,
les pièces, les seules en scène aussi.
Voilà, bah le oui, Bilbao, c'était pour ça que j'étais venue.
Exact.
Donc je dirais que plutôt mes parents, ils se sont plutôt sacrifiés pour qu'on ait une vie meilleure.
Ce qui est une forme de combat finalement.
Et
parce
qui est donc
que,
une forme de combat.
Absolument.
Voilà.
Mexico 86, c'est une histoire vraie, celle du réalisateur César Diaz. On va parler de ce film qui sera au cinéma le 23 avril prochain. Mais d'abord, celui qui est fan inconditionnel de vous, Bérénice. Monsieur Andela.
Évidemment.
Je suis fan de Bérénice Bejo. C'est la troisième fois en un an que vous venez, c'est beau. Moi en 11 ans j'ai pas été invité une fois. Je me rends compte qu'il y a des gens qui sont plus connus que moi. Je suis fan de Bérénice Bejo. On va vous donner un badge et un bureau. Vous allez voir, c'est cool d'être chronique. Si l'argent compte pas trop pour vous, vous allez être heureuse. Et vous êtes là pour Mexico 86. J'étais tellement content, cette coupe du monde, je la kiffe. Et franchement, les matchs sont très très mal filmés. On dirait la carrière de Neymar cette année. Ouais, je suis fan de Bérénice Bejo. J'ai compris que pour le film j'avais tout faux. C'est parce que je plaçais Mexico au Mexique. Mais le film parle du Guatemala, c'est logique. Guatemala. Soy un hombre sincero, un chroniqueur de la radio, y he fait la guitare, la canción, me oye au graffi, y soy cuyón, c'est pour el señor Nagui, la señorita Budadi. Ouais, je suis fan de Bérénice Bejo. Je vous laisse, c'est le moment de votre chronique radio. Ah bon, vous êtes notre invité, on vous fera pas de mal. Bienvenue à vous avec la bande originale.
Sur scène, Oldolaf, opération Bretzel le 12 avril à Lyon et le 18 avril à Orthez.
Et il a raison, ça commence au Guatemala avec une scène d'horreur. Une maman, bébé dans les bras, voit dans la rue son mari se faire abattre par les policiers en plein jour. Mmh. Oui, le chef de la police en fait vient finir le boulot, c'est-à-dire que clairement le mari est décédé, mais c'est la balle de la haine qui est mise dans le corps de ce papa, de ce mari. Et là, elle sait qu'elle est en danger pour son enfant. Elle doit quitter le Guatemala. C'est une révolutionnaire.
Oui. Elle doit quitter le Guatemala et c'est trop dangereux d'emmener le bébé. Et elle laisse le bébé à sa maman.
Et puis quelques années après, C'est plus fort qu'elle. Elle a envie de retrouver.
En fait, c'est peut-être pas bien clair, mais bon, il se voit tous les ans une fois par an pendant les grandes vacances. Oui. Donc elle le voit grandir, mais elle le voit que pendant les grandes vacances une fois par an.
Et il n'a pas le droit de garder une photo d'elle.
Non.
C'est ça, c'est terrible de se dire que cet enfant la voit une seule fois et en plus il n'a pas quelque chose à ramener avec lui.
Oui. Et puis à chaque fois il rentre au donc elle fuit au Mexique et à chaque fois qu'il vient la voir, il a une fausse identité. Donc ça, c'est vraiment une histoire vraie. C'est César l'a vécu. César Diaz, le réalisateur. Et donc voilà, ils vivent dans une sorte de, enfin, dans une sorte de clandestinité, en fait.
Permanente.
Voilà.
Oui, permanente, avec un jeu capillaire assez impressionnant pour vous.
Tout lui va, et tout lui va.
Mais c'est dingue. Mais c'est dingue. Il y a un petit côté.
Et pourtant, les perruques, c'est pas non plus de la super perruque. Enfin, je veux dire, on se dit pas.
Ah bah, déjà, on n'avait pas d'argent, donc on a fait ce qu'on a pu avec ce qu'on avait.
Et non, mais ça veut dire un truc d'époque, donc
oui,
pas.
Oui, mais non, mais je veux dire. Non, mais c'est pas ça. C'est que il a fallu inventer aussi autour de ça. C'est-à-dire
La coiffure Farrah Fawcett vous va extrêmement bien, quand même.
Non, celle-là, mais ce que je veux dire, c'est que même, par exemple, la scène de début du massacre du père, normalement elle était filmée et il n'y avait pas assez d'argent, au final elle marchait pas, ça, on n'avait pas assez de plans, enfin César n'avait pas assez de plans et il a inventé ce truc où on entend toute la fusillade pratiquement off sur le générique et tout a été comme ça sur ce film, c'est vraiment...
Oui mais c'est ce qui donne aussi sa force, c'est-à-dire que on n'est pas obligé de voir une fusillade pour
tout
en
à
avoir
fait,
peur
suggérant,
et que le son est encore plus fort.
Bah, c'est un film français quoi, enfin français et, c'est pas un film américain,
un film d'auteur
français belge, parce que d'ailleurs il est guatémaltèque belge, mais c'est vrai que...
Mais c'est là qu'on se dit que les films à 10 millions, parfois on sait pas pourquoi il y a 10 millions.
Ouais, enfin il y a des
cachets,
suite un peu.
Il y a les cachets déjà.
Ça se voit pas toujours beaucoup à l'écran.
En fait, on a trouvé, César a trouvé des idées de montage et de mise en scène aussi par rapport à tout ça. Et en ce qui concerne les changements de personnages et les perruques, c'est vrai qu'au départ, on n'était pas sûr de jouer tout ça. Mais en même temps, il y a un moment donné, il fallait créer des personnages.
Elle doit éviter d'être reconnue, d'être suivie.
Dans la rue, si on la voyait avec son enfant, il fallait pas qu'on puisse
l'identifier.
Voilà, l'identifier.
Donc il y a deux fois, il y a en permanence, pardon, et pas que deux fois, de nombreuses fois, des changements comme ça de perruque, de tenue vestimentaire. Elle est aussi, elle infiltre une rédaction d'un journal.
Elle a une double vie aussi.
L'autre moyen de combattre.
Ouais.
Il y a concrètement le gun à la main.
Fournir des armes,
le marché.
Voilà, exactement.
L'autre permet de véhiculer des idées, de lutter contre le pouvoir en place en Guatemala et dénoncer les exactions, en fait.
Exactement.
Et de douter de tout le monde. C'est-à-dire que le moindre passager d'un bus ou d'un métro devient par un regard suspicieux. Parce que est-ce que c'est juste quelqu'un qui est...
On est en alerte tout le temps, en réalité, puisqu'on est tout le temps en danger, en fait.
Et mais la frontière entre justement être en veille et parano.
Mais prudence et parano.
C'est ça.
De toute manière, c'est une femme qui, pour le coup, sacrifie aussi sa vie. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de famille, pratiquement. Enfin, elle n'a pas d'amis, elle n'a pas de vie. En dehors cette cause. Elle est vraiment dédiée à une cause. Et
prête à déménager. C'est-à-dire que le mot-clé, c'est valise.
Ouais.
Et à partir du moment où ce mot est crié dans le foyer, c'est
puis on se connaît pas. On a aussi des noms de code.
Jamais le même prénom, il faut changer.
Vivre dans la clandestinité, ça doit être quelque chose. En fait, c'est on imagine tout de suite un truc romanesque, les perruques, le nom et tout. Mais c'est au quotidien, c'est une violence quotidienne, c'est un danger quotidien, c'est des paranos, effectivement. Mais c'est des vies qui sont très triste, en fait, très seule.
Et en même temps, ça permet de comprendre pourquoi cette femme fait un choix qui semble, a priori, sur le papier, complètement fou. Choisir ses idéaux plutôt que son enfant. Et quand on voit à quel point...
On ne sait pas.
Ce que je veux dire, initialement, à partir du moment où elle confie son enfant à sa mère...
Pour le protéger.
Elle change de pays. On pourrait aussi dire elle pourrait très bien migrer encore plus loin avec son enfant dans un autre pays et abandonner son combat armé ou idéologique. C'est intéressant de voir le processus, le cheminement de ce personnage. Qu'est-ce qui fait qu'elle est autant attachée à cette cause-là ?
Et souvent, on va avoir des images, enfin des histoires de femmes qui vont vont abandonner leur cause pour s'occuper de leurs enfants.
Ou de leur mari.
Ou de leur mari. Et là, c'est de la possibilité de raconter une autre histoire. Ouais. Et je trouve qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe dans le monde, de pouvoir dire aux femmes, aux jeunes femmes aussi, que c'est possible. Le plus grand danger du film, c'était qu'on n'aime pas cette femme, ou qu'on la juge de manière très négative.
Elle peut faire peur. Il y a une scène dont je vous ai parlé, dont on ne parlera pas.
Oui, tout à fait. Mais je crois qu'à la fin, on ne la juge pas. En fait, on comprend. Et heureusement qu'il y a des hommes et des femmes qui vont se battre et qui vont...
Défendre des idées.
Et il y a eu, pendant la Seconde Guerre mondiale, beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes femmes qui ont été des résistantes, qui sont investies. Et je trouve que c'est bien de le rappeler.
Pourquoi une femme, parce qu'elle a un enfant, elle n'aurait pas le droit au combat, alors que l'homme pourrait dire...
Et pourquoi un homme serait obligé de mourir plus qu'une femme, et pourquoi un père devrait aller se battre et une mère non. En fait, je trouve qu'à l'ère MeToo, où on a essayé de se battre aussi... Alors attention, moi, je ne sais pas si j'en serais capable, mais je trouve que ce genre de films nous permettent, nous, les femmes, de réfléchir à ça. Dire, mais pourquoi est-ce qu'un homme devrait plus partir qu'une femme? On s'est battu pour l'égalité. Est-ce que maintenant, aujourd'hui, en 2025, où justement, il y a peut-être nos démocraties qui sont en danger...
Carrément.
Est-ce que c'est pas intéressant de se poser la question? Et je trouve que ce film permet d'avoir ce genre de possibilités voilà.
C'est le portrait d'une passionnariat. Je veux dire, au-delà de ça, même si ça questionne pas aujourd'hui, est-ce que oui ou non on serait capable de sacrifier son enfant? Au-delà de ça, c'est des figures aussi qui
c'est
faut
pas
reconnaître.
Sacrifier son enfant, mais en tout cas de lui donner un monde meilleur, et ça passe par un sacrifice. C'est vrai.
Voilà, ce qui est sacrifié, c'est la relation entre eux, parce que la distance vient poser un problème, mais elle le sacrifie pas non plus, parce que d'abord elle le confie à sa propre mère, donc c'est le rapport de la grand-mère protectrice avec l'enfant. Elle ne veut pas le mettre en pension, elle ne veut pas qu'il parte à Cuba, en l'occurrence, même si tout le monde autour, tous les révolutionnaires, comme s'il y avait déjà une espèce de mode d'emploi à suivre. C'est-à-dire que tu es avec nous, tu fais la révolution, ton enfant, tu le mets à Cuba dans une ruche.
Oui, c'est des endroits où, en fait, on élevait les enfants de révolutionnaires de manière communiste, et donc ils étaient complètement... ils étaient coupés de leur famille, vraiment.
Mais ça, elle ne le voulait pas, justement. Elle veut le garder dans un cadre familial et qu'il grandisse. Il a une dizaine d'années au moment où...
Au moment où le film commence, il a une dizaine d'années. Mais après, je trouve que aussi, on valorise aussi les enfants. C'est-à-dire que cet enfant, il est quand même très mature, il est conscient de ce qui se passe quand même. Et ça raconte aussi ça. C'est qu'en fait, on a tendance à beaucoup protéger les enfants, mais à un moment donné, les enfants, ils sont beaucoup plus rapides que les parents.
Va-t-il ou pas commettre une erreur? Qui va faire le faux pas? Parce qu'il y a une véritable tension.
Oui, il y a une tension. C'est vraiment un thriller. Ça reste un film avec du suspense.
C'est réussi. Des courses-poursuites, même. C'est réussi. Et c'est signé César Diaz. C'est encore plus fort. Pardon, j'ai compris à la fin du film que c'était une histoire vraie, parce qu'il dédie le film à sa mère. On se dit donc qu'il y a quelque chose qui passe. Même si la fiction s'est emparée de quelques scènes, je n'aurais pas hésité, si j'avais été lui, à écrire dès le début.
Oui, c'est vrai.
Au moins à partir d'une histoire vraie, parce que je me suis posé la question tout le long du film.
Oui, c'est vrai.
Mais c'est une... en tout cas, à la fin, on se le prend comme une claque supplémentaire. C'est peut-être ça aussi qu'il voulait comme effet.
Il a eu envie de faire ce film pour sa mère, pour comprendre sa mère. C'est-à-dire, quand je l'ai rencontré, on a dîné ensemble, et il me dit, moi, pendant longtemps, j'ai pas compris pourquoi ma mère, elle m'avait abandonné pour cette cause. Et il me disait, moi, j'ai des petits-enfants, je sais pas si je pourrais les abandonner pour partir me battre. Et là, en promo, et avec tout ce qui se passe dans le monde, il me dit, je crois que je comprends ma mère. Je crois que je suis prêt.
Tu n'as pas précisé que tu joues en espagnol.
Oui, en plus, ça, on va en parler. On est jusqu'à midi et demi. Il y en a une qui n'a pas du tout compris. Ah. Pas du tout, c'est Lisa Delmoitier. Tu voulais pas faire ça comme ça, toi?
Mais non, vous savez, on me le reproche. Mais moi, si je suis pas engagée dans un mouvement politique, c'est avant tout pour m'occuper de mes enfants. Certes, j'ai pas d'enfants, mais pourtant, je les aime déjà. Imaginez ce que je suis prête à faire pour eux. Vous êtes marrant, vous, mais ça se prépare, la maternité. Faut arrêter de boire 3 mois avant le début de la grossesse, arrêter de fumer 4 mois avant, et à un moment donné, toute responsabilité qui impose de quitter son canapé, si j'en crois mon calendrier, 33 ans avant, au moins. Mais votre personnage, Bérénice Bejo, dans Mexico 88, est engagé 86. Et 86. 6, oui, mais je voulais dire 8 pour rappeler d'où je viens.
Elle est exceptionnelle.
récupération. Elle est engagée et maman, puisqu'on l'a dit, elle est militante révolutionnaire guatémaltèque, tout en ayant un fils. Et pour m'être déjà occupée d'un petit garçon, c'est vrai qu'il n'y a rien qui te motive plus à rejoindre une lutte armée. Hein. Franchement, de base, je suis pas une combattante, mais vous connaissez le seul événement plus traumatisant qu'un face-à-face mitraillette contre mitraillette avec la junte militaire, une après-midi devant la patte patrouille. Après deux épisodes, j'avais rejoint le PKK, quoi. Je suis même pas kurde, j'avais juste confondu avec le KKK. En réalité, c'est un vrai dilemme pour une femme à la fois mère et militante, s'occuper du monde ou s'occuper de ses enfants. À nouveau, dilemme vite résolu pour moi. Le monde est casse-couille, certes, mais enfin, lui au moins, il réclame pas de téter mes seins. Il faut le dire quand même, c'est un dilemme qui ne se pose qu'aux mères, on l'a dit, un père absent pour la bonne cause, c'est un héros, une mère absente pour la bonne cause, c'est une mère indigne. Tu ne peux jamais gagner.
Non.
Sachant que même quand tu fais tout bien, t'es une mère indigne. Oh, moi, si j'étais mère, qu'est-ce que je ferais de la merde? Oh là là. De toute façon, t'es là, t'es étouffante, t'es pas là, t'es absente, tu donnes le sein, t'es malaisante, tu donnes pas le sein, t'es pas aimante. C'est quoi si je peux pas gagner? Oh, comment je vais me faire un plaisir de perdre? Oh. Allez, allez, oublie Montessori, hein, je vais inventer l'éducation roue libre. Voilà. Littéralement, parce que je lui apprendrai même pas à regarder avant de traverser mon mouflet, donc chaque voiture qui passe, c'est potentiellement une roue libre dans sa gueule. Ouais. En réalité, votre personnage, Bérénice, elle règle ce dilemme en confiant son fils à sa mère, ce qui, soit dit en passant, est une seconde raison de ne pas faire d'enfant. Non seulement tu dois les élever, ces morpions, mais après, eux, ils font des morpions qui ne veulent pas élever. Enfin, c'est contagieux, cette merde. C'est la maternité ou la gastro? Je te jure, ta fille qui se pointe chez toi avec son gosse, on dirait ton chat qui te ramène une souris. Merci pour le trophée, mais j'ai rien demandé, moi. Enfin, mais très peu de femmes ont cette solution. On dit que c'est un dilemme, mais que ce soit révolutionnaire ou juste femme active, l'arnaque du 21e siècle, c'est d'avoir dit aux femmes que leur plus grand challenge sera de choisir entre le travail la maternité. Si seulement, aurait été, tu te tapes les deux. Le combat, c'est spécifique, mais plus globalement, on s'est battu pour avoir le droit de travailler parce que ça avait l'air chouette quand les mecs le faisaient dans les années 50. Ils buvaient du whisky en réunion dès 11h en s'enfilant des clopes en moins de temps qu'il faut pour dire cancer de la gorge. Ils plotaient la secrétaire qu'ils appelaient tous mon petit, puis ils rentraient juste à temps pour foutre leurs pieds sous la table à 19h et se taper un gros gigot. Je parle pas de madame, hein, je parle de la pièce chez le boucher. Nous, on s'est dit trop bien, marre de passer la journée à cuire du gigot, on veut la même. Résultat, maintenant, oui, on a le droit de travailler et de rejoindre des luttes armées, mais déjà, au taf, on peut plus ni boire, ni fumer, ni ploter le secrétaire. Et quand on rentre à 19h, ben, faut faire à bouffer, ma grosse, hein. Il va pas se cuire tout seul, ce gigot. Donc, j'admire beaucoup les femmes qui font les deux, les femmes comme votre personnage Bérénice qui luttent entre leur engagement et leur rôle de mère, mais moi, à choisir entre travailler et élever des enfants, je crois que je vais faire aucun des deux, en fait.
Merci! Bravo!
Tellement raison.
Lisa Delmoitier, vous vous êtes posé la question de d'accepter ce film par rapport. Enfin, vous aviez refusé déjà de jouer autour de l'Argentine, du combat justement ou de la tension qu'avaient pu vivre vos parents. Vous avez dit dans une interview, je voulais qu'ils puissent aller voir le film, donc j'avais refusé ces autres films. Mais celui-là, oui, j'ai accepté.
Ils le voient ce soir. Franchement, ouais. Franchement, je sais pas comment ça va se passer. Non, mais en fait, je crois que j'avais besoin d'explorer. Moi, j'ai été tous les personnages dans ce film. J'étais l'enfant.
Vous avez déjà joué en espagnol, ça.
Oui, mais là, j'avais besoin d'explorer ce que ça voulait dire d'être la mère et l'enfant et la grand-mère. Je sais pas comment dire. Et donc, je l'ai dit. Je sais très bien le dire d'ailleurs. C'est bien, on progresse. Merci, Daniel. Non, mais j'ai pu expérimenter tout ça, en fait, toutes ces émotions. Et bon, franchement, je suis pas actrice pour être. Enfin, je suis pas dans un truc mode psychologie. Mais ce film, ouais, m'a fait vachement de bien. Je sais pas comment.
Est-ce que le sujet de l'exil, de la dictature, de ce combat, encore une fois, en sortant du personnage, vous vous dites parce que le monde va mal et parce qu'il y a des combats à mener, c'est intéressant de voir quels sont ces héros, peut-être oubliés d'ailleurs, hein, il n'y a pas de plaque commémorative de ces révolutionnaires, tous ne sont pas marqués l'histoire au point d'être sur des t-shirts à la fin, mais ils sont nombreux en tout cas.
C'est leur rendre hommage aussi de raconter les histoires de ceux qu'on n'a pas sur nos t-shirts et de ceux qu'on pourrait devenir un jour peut-être. En tout cas, ça m'a permis d'explorer pas mal de choses et puis
cette image de l'exil, d'être en fuite permanente, c'est-à-dire de ne jamais être chez soi quelque part. c'est un drôle de sentiment.
Bah oui, je l'ai exploré aussi avec Bilbao dans la pièce de théâtre que je viens de jouer. C'est, je pense que c'est des thèmes qui sont très forts en moi et que là j'arrive à assumer finalement. Mmh. Et c'est une façon aussi de dire à mes parents, vous m'avez pas tout raconté, mais au fond je sais.
J'ai compris.
Voilà, j'ai compris quoi. Ma mère, il y a encore 6 mois, elle m'a dit tu comprends rien et tu sais pas. Et, donc, et puis tu juges et tout ça. Et je me dis bon, bah peut-être que ce soir, elle va se rendre compte que quand même, malgré tout, vous même si elle m'a pas beaucoup parlé, ouais, on ressent et on sait en fait. On sait les enfants, on sait malgré tout les souffrances de nos parents, les sacrifices
et puis leurs valeurs aussi.
Oui,
parce que
voilà.
Il y a une sorte de transmission dans ce film.
Tout à fait.
Il y a la grand-mère, il y a la mère, il y a le petit garçon.
Et moi, c'est des thèmes que j'adore. Tout ce qui est transmission.
Pas dire que ce soit familial, mais il y a une transmission.
Voilà, exactement, exactement. Et donc voilà, je pense que c'est un film aussi, c'est une manière de dire à mes parents que je les aime encore une fois.
En espagnol.
En espagnol.
C'est quand même votre langue maternelle.
Oui, et ça faisait longtemps que je voulais quand même faire un meilleur film que le film que j'ai fait avec Trapero, qui était pas incroyable. Et donc, bah oui, parfois on fait des films et puis ils sont pas super. Et voilà. Et César m'a, je sais pas, je trouve que cette relation de mère-fils, elle est tellement belle dans des petites scènes de quotidien. Il y a tellement, ça transparaît l'amour.
Et puis il y a d'ailleurs aussi le côté, je ne te dis pas tout, tu comprendras plus tard.
Exactement.
Que vous avez vécu, oui, vous, par le prisme de l'enfant. Donc
mais
on
César
trouve
et moi,
ce même
schéma,
parce
ça,
qu'on veut protéger, oui, justement l'enfant, sans trop lui en dire.
Bien sûr.
Et de là, est-ce que c'est le talon d'Achille de toute cette opération à voir dans le film Mexico 86? César Diaz sera notre invité tout à l'heure. Vous avez rencontré sa mère? Vous avez posé des
non,
questions?
Non, on a tourné au Guatemala, elle n'est jamais venue. Je
vous
ne
auriez,
l'ai jamais vue.
Vous auriez aimé la rencontrer? Ou
au
contraire, c'était bien de l'interpréter sans la voir?
Ça, c'est pas un problème pour okay. moi. C'est un personnage, que ce soit un personnage réel ou pas, ça ne me... Quelque part, je m'en fiche, en fait. Je joue ce qui a écrit sur le scénario. Donc, soit j'adhère au scénario et au point de vue du réalisateur, et auquel cas, bah voilà, je joue un personnage. Mais je m'embarrasse pas du fait que ce soit un personnage.
Non, mais pour lui, ça devait être chaud quand même de.
Lui, c'était
tournage,
chaud.
Non,
il a eu des moments très, très durs.
Émouvant?
Ouais. Très émouvant. Où il a beaucoup. Où je sentais qu'il revivait des scènes. Il a beaucoup pleuré sur le plateau. Et je lui disais, attention, César, c'est pas parce que tu pleures que la scène est réussie. Et donc je repartais.
Au contraire, ça risque d'être flou. Hein, s'il voit pas bien. Mais
c'est trop. Parce que
c'est trop. T'es d'accord,
Vénus? Oui, merde, c'est super.
Non, non. C'est...
En gros,
le point. Le point.
Il n'a pas l'accent.
C'est vraiment pas ici qu'il faut venir pour avoir du soutien.
Ouais, ouais.
Oh, si.
Moi je suis venue pour le petit thé et vous, oui, vous voyez, quoi, c'est sympa.
C'est cool.
Ouais, voilà, c'est ça.
Votre travail c'est essentiellement basé sur est-ce que la langue qui est votre langue maternelle n'est pas un problème ou est-ce qu'il fallait trouver un accent particulier?
J'ai beaucoup travaillé sur l'accent, ouais.
D'accord.
Parce que moi je suis argentine mais j'ai un accent français quand je parle argentin et en plus elle est guatémaltèque et elle va migrer au Mexique. Mm. Alors c'est comme si vous reconnaissez un accent de Marseille, un accent du Nord.
Des gens qui disent 8, par exemple.
Voilà, des belles. Donc, du coup, c'est vraiment, pour moi, c'était très important. Je me sentais pas légitime au départ. Je me disais, mince, je vais arriver avec mon accent un peu français, ouais, mes connotations argentines, et je joue une guatémaltèque. Et je me disais, mais pour les guatémaltèques, c'est terrible. Pourquoi Bérénice Bejo, finalement? Pourquoi pas une guatémaltèque? Évidemment, financièrement parlant, ça aidait de m'avoir. Et donc, sur la balance, je me suis dit, je suis quand même argentine, je sais ce que c'est qu'une dictature, je viens de l'Amérique latine. Enfin, finalement, je me suis dit que c'était pas une si mauvaise idée.
Vous êtes un peu rassurée.
Je suis un peu rassurée.
Légitimité.
Et j'ai travaillé tout l'été, 1h30 par jour, avec une coach, à essayer de gommer l'accent français et aussi à avoir un accent panaméricain, donc un peu neutre.
Parce que les autres acteurs sont...
tous guatémaltèques ou mexicains.
D'accord.
Ouais. Et il y a justement, il y a un lien entre l'accent guatémaltèque et mexicain, parce que on suppose que, pareil, là même, dans la situation qu'ils
ont vécu. Alors, c'est vraiment pas les mêmes accents.
C'est ça, ouais, donc.
Mais par contre, le guatémaltèque et l'argentin sont plutôt similaires, donc c'était donc, pas trop compliqué pour moi. Et après, j'ai vraiment aplani l'accent. Ouais. Quoi.
Saluons aussi celle qui joue votre maman dans le film, Julieta Egurrola, qui est une grande
actrice mexicaine.
Et César Diaz sera avec nous tout à l'heure. Mais d'abord, voici Rebecca Balestra.
Ah oui! Dans la nuit du 14 au 15 avril 1912, le Titanic sombrait.
naufrage d'une chimère qu'est l'idée de progrès, la croyance qu'on vogue vers le mieux alors qu'on va vers le pire. Preuve en est la radio filmée, Titanic complet, regardez ça, les humoristes se sont obligés de se foutre une perruque frisée lamentable couleur rouge enfer pour faire du clic. Je suis arrivée ce matin, on s'est tellement foutu de ma gueule, Dixit Daniel, Ronald McDonald aimerait bien récupérer ses poils de couille. Non mais c'est tellement vulgaire, Daniel. Puis je suis pas en Ronald, je suis en Rose DeWitt Bucketer. Et tu pourras te brosser pour que je te laisse une place sur ma porte. Allez, file dans ta cale avec les rats, c'est la première ici, c'est pour Nagui et moi. Retourne en troisième place avec les Français. Titanic, innovation maritime du XXe siècle, 269 mètres de long. Une révolution aujourd'hui dérisoire, parce que maintenant le plus grand paquebot fait un hectomètre de plus. Mais bon, comme le dit si bien Amanda Lear, c'est pas la taille qui compte, Leïla.
C'est le goût.
C'est le goût. Et là, le bon goût, on en est très loin, avec à bord des patinoires, des grands huit, Oldolaf au violon qui joue le petit bonhomme en mousse. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on ne différencie plus les classes. Aujourd'hui, on réunit tout le monde dans une seule catégorie, les ploucs. Le véritable naufrage du Titanic, c'était ça, le début des croisières infâmes et du tourisme de masse. Donc, quand Rose est seule sur sa porte avant de lâcher Jack comme une merde et de le regarder sombrer comme un gros étron au fond de la cuvette... D'ailleurs, moi, c'est ma référence. Hein. Quand je coule un beau bronze qui tombe droit dans le tuyau, je l'appelle un DiCaprio. Lisa, d'ailleurs, toi qui rêves de le rencontrer, un bon petit lavement et tu le verras. Tu pourras peut-être même l'embrasser. Non, mais Lisa, elle adore, elle est scato. Ah mince, Lisa, j'avais pas le droit de le dire. Donc quand Rose promet à Jack qu'elle mourra très vieille, bien au chaud dans son lit et que ce voyage ce sera pas le dernier parce qu'il y en aura plein d'autres, la catastrophe, elle est là. Dans cette scène qui a valu un Oscar à Kate Winslet et qui me rapportera, j'espère, 4 followers de plus.
Non.
Il y a un bateau, Jack. Revenez. Je pardonnerai jamais, Jack. Je vais me les faire, ces tresses en perles sur cette plage à Majorque. Et j'obligerai ce cheval à porter mon gros cul pour tenir ce coucher de soleil entre mes deux doigts. Je te promets, Jack. Je vais le faire, ce week-end shopping de pétasse à Barcelone. Ce trip ecstasy à Ibiza. Je vais le faire, ce tour de la Méditerranée pour 1,99€. Parce qu'avec le low cost, bousiller la mer, ça coûtera plus rien. Tu vois, j'ai plus besoin de toi, Sugar Nagui. J'en ai rien à foutre de ton cœur à 100 000. Regarde ce que j'en fais. J'abandonnerai jamais, Jack. Je vais l'acheter, cet artisanat local made in China. Et je cramerai ma peau de rousse parce qu'on m'aura entubé avec une fausse crème solaire. Parce que de se faire enculer, ça donne des couleurs. J'abandonnerai jamais. J'éclaterai tous les récifs avec mon encre. Je ferai monter la température des océans pour que t'aies plus jamais froid, Jack. Et j'aurai plus peur parce que les icebergs, il n'y en aura plus. Ni éponge, ni étoile de mer, ni oursin, ni coraux, ni lamantin, ni tortue, ni dauphin, ni mérou, ni baleine à bosse, ni requin. Parce qu'il n'y aura plus rien, Jack. Il n'y aura plus rien. Allez, Jack, hein, tu schlingues, je tire la chasse.
Non, te penche pas, je t'en supplie.
Oh, mon Dieu. Ne te penche pas, c'est du parmesan.
C'est du parmesan.
Non, c'est de la noix de coco râpée.
Ah, oh, c'est bio. C'est bio. C'est bien. La musique dans le film Mexico 86. César Diaz est le réalisateur. Bérénice Bejo est notre invité. César sera là dans quelques instants pour évoquer ce film qui est l'histoire vraie de lui et sa maman. Vous partagez l'affiche avec Matteo Labbé, Leonardo, mais cette fois-ci c'est Ortiz Grise et Giulietta Egurola dans quelques instants. La musique de ce film. Qui était tourné au Mexique, où il fallait que les décors correspondent ou...
On a tourné principalement au Guatemala,
d'accord.
Tous les intérieurs et les extérieurs, on a eu plus deux semaines au Mexique, il me semble.
Ouais. Parce que...
Ouais, c'était dur. Non, enfin, ceci dit, c'était quand même assez... Ouais.
Non, mais il y a quand même, il y a ce côté. Alors, je ne sais pas si c'est toujours le cas dans les pays d'Amérique latine. Ces voitures américaines, ces grosses voitures américaines, qui sont finalement les secondes mains. Ouais, c'est ça.
Au Mexique,
Jetées par les Américains et qui finissent au Mexique.
Oui, c'est vrai. Ouais. Mais bon.
Non, non, mais ça, elles sont.
Ouais, je sais pas quoi dire.
Elles sont présentes. Non, mais elles sont présentes.
Elles sont là, elles sont là.
Elles sont présentes dans le film, elles sont présentes dans
elles
les courses.
Elles sont super bien, ouais. Ouais. Non, non plus. Je sais pas quoi dire.
Moi, je comprends, Nagui, je comprends.
Je voulais parler voiture.
Mais... Voilà. Il y a des bagnoles, quoi. Des
ouais, moi, j'ai kiffé ce moment.
Ouais. Non, non, perso, mais
il y a 3-4 voitures.
C'est belle bagnole,
mais c'est assez joli. Non, mais assez joli.
Tu sais qu'elle veut rien dire dessus.
Il y a la poursuite, elle ne peut rien dire dessus.
Non, mais si vous saviez la poursuite.
Et cette poursuite, elle est.
On a tourné dans la même rue. Les allers-retours, on avait 3 voitures.
Très bien.
Non mais vraiment.
Ça fonctionne, c'est ça.
Ah ouais ouais. Bah, et on a fait sans arrêt et il a pris des.
Et il y a une tension, il y a une véritable tension parce que
je comprenais pas. Disons, quel créneau raté quoi. Ça,
sans
ça
arrêt,
fait une demi-heure qui essaie de se garer.
Dans la vie.
Non mais comme quoi, hein, avec pas beaucoup d'argent, on arrive à faire quelque chose.
De la contrainte naît le génie.
Oui, tout à fait.
Dans la vie de Bérénice Bejo, dans les années 80, vous écoutiez
les
Yves Montand.
Les feuilles mortes se ramassent à la. Tu vois, je n'ai pas oublié.
Et on n'a pas oublié cette période de Leïla dans la vie de Bérénice.
Pourquoi cette chanson ?
C'est celle que j'ai appris quand je suis arrivée en France à l'école maternelle de Constantin Pecker. Je devais avoir 4-5 ans. Et on apprenait cette chanson à l'école.
Dans le 18e.
Bon choix.
Dans le 18e, tout à fait. À côté de la statue de Dalida.
De Dalida, juste en dessous, absolument. On est en 1980. Et vos parents trouvent refuge en France, vous l'avez expliqué, pour échapper à la répression militaire. Qu'est-ce qui vous reste comme souvenir ? Vous êtes toute petite ?
Oh, j'en ai plein. Montmartre, la neige, il neigeait à l'époque.
C'est la montagne, quand même.
Ouais, c'était la montagne. Le chien qu'on baladait, mon chat, le balcon.
Mais pas de souvenir. Avant
de voir, en Argentine.
Ouais. Qu'est-ce qui vous reste ?
Non, d'Argentine, j'ai que les Super 8 de mes parents que j'ai vus de temps en temps.
Vous avez 4 ans à peu près.
J'ai 3 ans quand on quitte l'Argentine. Ouais. Et non, je me souviens de pas grand-chose. J'ai que les photos en mémoire. Quoi. Mmh. Ouais.
En 2001, vous écoutiez Alicia Keys. Alicia Keys, que se passait-il dans la vie de Bérénice Leïla ?
Eh bien, elle part en vacances
en 2001
aux États-Unis.
Ah.
Ouais.
Ah oui, oui, bien sûr, oui.
Et
oui,
et on part en vacances
en 2001
comme ça. Bah ouais, 2001.
2001, je pars pas en vacances en 2001.
Bon, alors en tout cas.
Les tours, non, c'est 2011, pardon. Là, je me mélange tout.
Ouais. Tours, c'est 2001.
2001,
non, c'est 2001.
Vous partez juste avant.
Le 11,
cas, vous tournez dans Chevalier.
C'est le 11 septembre.
Ah oui.
Et vous passez une audition, en fait, à cette occasion-là.
Elle est très diminuée quand même.
moi je l'ai connue.
On va dire que la date c'est pas
grave.
Moi si vous voulez aller là.
Elle enlève sa perruque et c'est pas elle.
Vous voyez
qui on est quand même. Donc aux États-Unis.
Aux États-Unis, vous passez une audition et vous décrochez un rôle en Chevalier.
Ah ouais, non, c'est de 2000, pardon, Leïla.
Oui, le film sort en 2000.
Ouais, voilà, c'est ça. Non, je pars à Los Angeles pour le nouvel an 2000.
On est d'accord, ouais.
Ouais, mais pour le passage à l'an 2000.
Ah
ouais,
ça y est, en plus.
Pardon, ça y est, je suis de retour. Non, mais c'était important parce que je comprenais plus.
Non, mais j'ai pas compris votre agenda là.
Ouais, mais bon, merde.
Je fais des trucs à peu près précis.
C'est bien, Leïla, lâche rien.
Ça y est, tu l'aides. J'ai compris, vous voulez venir. Oui. Vous parlez Chevalier, c'est ça ?
Oui, Chevalier.
Voilà, pardon, Chevalier.
Peut-être on va faire l'émission en espagnol, ça sera plus simple.
Paul, favor, Paul, non, c'est le que parle.
C'est le problème, là. Bref.
Chevalier.
Alors,
Chevalier. Attendez, je
reprends. Cavalier.
C'est un naufrage. C'est un Titanic.
Encore Titanic.
En direct.
Chevalier. Belle aventure. Oui, Chevalier, je passe le casting. Chevalier.
Vous pouvez faire des phrases.
Non, attends.
Et si on parle des voitures.
Est-ce que vous pouvez faire une phrase sans Chevalier ?
Si on parle des bagnoles.
Chevalier.
Mais qui êtes-vous, vous tous ?
Très bien. En 2012, vous écoutiez.
Non, mais si, mais Chevalier, c'est une belle époque.
On est passé en 2012.
Ah ouais, on est passé en 2012.
C'est vachement bien, 2012.
Vous m'avez fatigué avec Chevalier.
2012. 2012, attendez, laissez-moi deviner.
Camille.
C'est gravé dans le marbre.
Camille.
Tout dit. Tout dit, si, tout dit, là, tout dit, ça, tout dit, tu veux que l'on se parle.
Tout dit, 2012.
Et quand même génial, Camille, ce qu'elle arrive à faire, encore une fois, Oscar et César de la meilleure musique avec Emilia Pérez. et elle se sert vraiment de sa respiration, de sa voix, du
tempo. Comme tout le monde.
Non, du tempo, justement, pas comme tout le monde. C'est ça qui est fort.
Tu gâches tout.
Tu respectes rien.
Alors, 2012.
J'aime Camille.
Respect. Le passé.
The Artist.
Ah, The Artist. Ah,
elle est complètement à la rue. Non,
vous recevez le César de la meilleure actrice.
Ah ouais.
Ah voilà.
C'est bien.
Hyper peur.
C'est bien, Bérénice.
Hyper peur. Avec cette phrase.
Elle a tenu
forte.
Une demi-heure, elle a craqué.
Cette phrase qui me fait penser à Timothée Chalamet, en fait. Le César, je le voulais. Vous dites ça pour votre discours.
Oui.
Et récemment, Chalamet a dit voilà, moi, je veux faire partie des plus grands. Ah, j'ai pas de problème à dire ça. Et je veux, en gros, je veux toutes les récompenses du monde.
Putain, il m'a tout piqué. Lui.
Ouais.
Non, mais c'est vrai que ça avait vachement surpris. Je m'en rappelle, j'ai dit à Michel, je me disais, mais la honte, j'ai dit, je le voulais, quoi. Et il me dit, mais Bérénice, c'était tellement agréable d'avoir quelqu'un qui dit un truc juste vraiment honnête.
Ouais.
Et en fait, c'est vrai que je le voulais vraiment.
Ah ouais.
Et Omar aussi le voulait vraiment. Il l'a eu la même année. Moi, je suis fière de l'avoir eu avec Omar. Je sais pas. Il y avait une bonne ambiance ce soir-là. Il y avait plein de bons films et il y avait une compétition agréable, quoi.
Ouais.
Vous, en 2016, je vais y arriver. Vous écoutiez Justin Timberlake.
Ah oui, ça c'est ma fille. Vous allez me parler des vacances avec ma fille en Normandie. Non, c'est pas ça.
Pas du tout.
Non, tout ce que vous voulez.
Ouais, la pièce de théâtre. Absolument, je me dis, qu'est-ce tout ce que vous voulez, quoi, de quoi on parle.
La pièce.
Vous êtes sur scène.
Mais oui.
Bien sûr.
Oui, oui.
Tout ce que vous voulez de Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière.
La pièce surnommée Le Cavalier.
C'est votre première sur scène.
Oui, j'avais 40 ans.
Ah ouais.
C'était ma première sur scène avec donc De Groot. Et aussi, j'ai fait un spectacle de danse. Et c'était l'année des premières fois.
Pourquoi si tard, entre guillemets?
Pourquoi si tard, je sais pas, ça s'était pas comment on dit,
présenté
avant.
Waouh.
Est-ce qu'il y a un médecin dans la
salle? Je sais plus, vraiment en meilleure forme.
Mais... Non mais ouais, je suis un peu fatiguée, désolée.
Jet lag ou quoi?
Non, pas du tout.
Voilà. Guatemala, Paris, arrêtez.
Non, pas du tout. Non mais c'était
Elle arrive de Montmartre. Hein.
Il y a ces arcades qui vont avec aussi.
Non, ça y est, je me souviens pourquoi. Non mais je me souviens, c'était une époque où j'en avais un petit peu marre du cinéma. J'avais l'impression que je tournais un peu en rond et j'avais envie de me mettre un peu en danger. Et du coup, on m'a proposé cette pièce et c'était l'occasion de... J'aime bien choisir des projets qui me mettent un peu en danger, qui me font des petits challenges et qui me reboostent un petit peu. Et ben, c'était ça.
César Diaz nous a rejoint.
César, tu vas nous sauver.
L'histoire.
César,
Mexico 86, c'est lui qui réalise ce film, né au Guatemala, et vous avez réalisé donc Mexico 86. C'est votre histoire personnelle. Évidemment, vous avez fait exprès de ne pas l'écrire au début du film et de dédier ce film à votre maman. Quelle était votre démarche de ne pas immédiatement dire que c'était une histoire vraie?
Je sais pas, parce que je pense que les gens, s'ils les savent après, les films prennent une autre densité, une autre dimension. Alors que si on le sait dès le début, bah on commence à réfléchir, est-ce que c'est vraiment vrai?
Est-ce que c'est crédible?
Voilà,
c'est
ça, est-ce qu'il a vécu ça? Enfin,
Est-ce que vous avez posé des centaines de questions à vos parents pour comprendre ce qui s'était passé? Parce que quand on vit cette situation-là par le prisme de l'enfant, quand on a 5, 6, 10 ans, on se rend pas compte, en fait, de ce qui se passe.
Ouais, sauf que moi, on m'a tout raconté, c'était contradictoire parce qu'on m'a raconté tout, des actions politiques, de la clandestinité, des faux papiers, des armes, etc. Mais dès qu'on allait vers les mondes des sentiments et des émotions, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus personne. Et donc, moi j'ai dit, mais c'est bizarre.
Ils sont très factuels, quoi.
Ah oui. Ouais. Il y a une ouverture totale, il n'y a pas de secret. Et quand je pose d'autres questions, bah là, il y a...
Comme quelle question?
Bah, pourquoi est-ce qu'on s'engage? Quels sont les... Enfin, est-ce que t'as voulu vraiment de moi? Est-ce qu'un jour tu pourrais quitter cet engagement? Est-ce que... Bah, des vraies questions, quoi.
Et qu'est-ce que l'on reçoit comme valeur quand nos deux parents sont révolutionnaires, activistes et mettent leur vie et en danger, voire la vie de leurs proches aussi, parce que c'est, ça a des répercussions sur tout l'entourage, sur toute la famille.
Ah bah, une conscience sociale à toute épreuve, et surtout...
Ça peut donner l'inverse, hein. On peut aussi se dire, moi surtout pas, refuser, je vais pas du tout entendre parler de ça, je veux une vie peinard tranquille, je j'ai pas de perruque, j'ai qu'une identité.
Sauf que quand que vous avez 15 ans et que vous achetez un jeans, et qu'elle prend les jeans et dit, non mais en fait, il y a les larmes des ouvrières guatémaltèques dans ces jeans.
Ah, c'est ma mère, ça.
Et qu'il vous les jette, on s'est dit, ah mais ok, il y a quand même un problème là. Donc,
ouais, il y a une conscience politique dès le à chaque geste de la vie quotidienne.
Ça. Et après, ben, on fait des films comme Les 13 Madres, quoi.
Votre maman a vu le film?
Oui, elle a vu. Et elle m'a dit, c'est bien parce que ça montre la souffrance des militants et de leurs enfants.
Oui.
Donc il s'agit jamais d'elle ou de moi, c'est les militants et les enfants. Et je sais pas, je pense que ce qu'on disait avec Bérénice, moi j'ai arrêté de poser ce genre de questions. Maintenant je prends ce qu'elle me donne.
Et oui, puis, mais vous
dites la pudeur aussi.
Vous avez même dit dans une interview, je n'ai jamais été le fils de ma mère, j'étais le fils de ma grand-mère.
Bah je l'appelais par son prénom, on s'est parlé d'une façon hyper directe. Je sais pas, vous débarquez dans une maison et la première chose qu'on vous dit, c'est il y a un tableau sur les frigos avec les tâches ménagères et les jours où il faut le faire. Et vous avez 10 ans, vous dites, bah c'est quand même, enfin il y a quand même un truc assez carré, discipliné. Et surtout, il fallait apprendre à être une mère et pour moi apprendre à être le fils de cette femme. Et c'est pas évident parce que je pense que cette relation s'est construite dans les quotidiens, dans les petits gestes, en allant à l'école, en faisant des devoirs, en couchant les enfants, et tout ça on l'avait pas vécu ensemble. Donc du coup j'étais face à quelqu'un que certes il y avait de l'amour, mais on savait pas comment faire. Et surtout moi dans mon fort intérieur, ma mère était restée au Guatemala, hein. Pour moi c'était clair, hein.
Vous avez choisi Bérénice Bejo par ressemblance?
Mais pourquoi?
Avec votre maman?
Non, pas du tout. Je l'ai choisi parce qu'elle est une grande actrice.
Ça, c'est sûr.
En fait, moi, j'écrivais en pensant à elle, mais pas pour qu'elle fasse le film. Je sais pas, parce que moi, Les Passés est un film qui m'a marqué. Et donc, je pensais à elle. J'avais besoin d'une tête pour écrire. Et puis, j'ai découvert qu'elle était argentine et qu'elle parlait espagnol. Et je me suis dit, ah, tiens, il y a quelque chose. Et après, j'ai découvert en plus qu'elle avait quitté l'Argentine pour des raisons politiques. Là, je me suis dit,
elle va pas refuser.
Bah, je sais pas. On a envoyé le scénario.
Et vous lui avez tout de suite dit que c'était une histoire vraie, que c'était votre histoire et celle de votre mère.
Bah, quand on s'est rencontrés, on a parlé que de nos parents, les secrets, l'exil. On n'a pas parlé du film. Hein.
Et vous n'avez pas cherché à les faire se rencontrer avant?
Qui?
Votre mère et Bérénice.
Ah, ma mère, on tournait à deux rues de là. Elle voulait pas. Hein. On tournait à deux rues de chez elle. Et je lui disais, tu viens sur le plateau? Non, ça m'intéresse pas.
Et qu'est-ce qu'elle fait quand on a été toute sa vie activiste comme ça? Aujourd'hui, on devient une petite grand-mère tranquille, paisible. On fait quoi de ses journées?
Oh non. Elle est dans les manifestations. elle gère un programme des Nations Unies pour les droits des femmes.
Et
dans
sur deux, trois attentats par semaine. On s'occupe, quoi.
Non, on continue. Je pense qu'on est aussi fidèles. Et puis, je pense que quand on a été forgé comme ça, je sais pas, je lui envoie une photo de mes enfants l'autre jour. Et elle me dit, ah oui, comme dirait José Marti, une enfance heureuse, c'est un pays. Mais je dis, c'est bon, quoi.
C'est une photo.
C'est une photo. Ils sont au parc.
En tout cas,
vous la changerez pas. Hein.
C'est trop tard. Non, mais il est clair. Vous dites ce que vous voulez. Vous êtes fier de votre maman.
Évidemment. C'est clair.
Évident.
Sinon, j'aurais pas fait le film.
Elle sera fière du résultat parce que c'est un
d'abord ça, c'est un bon film.
C'est un vrai thriller. C'est super bien réalisé malgré, on l'a entendu, les contraintes techniques, de moyens, de budget, de situation dans lequel vous l'avez fait. Formidablement porté par une brochette d'acteurs dont Bérénice. Mais je tiens à rappeler aussi ceux qui sont et qui gravitent autour de vous. Le gamin, il est impressionnant aussi, ayant toujours peur de mal faire ou d'être un peu le boulet au milieu de toute la situation. Est-ce que c'est ma faute ou pas? Question que on peut se poser assez souvent dans la vie, sauf que là évidemment c'est poussé à l'extrême parce que c'est l'enjeu n'est pas simplement de une soirée réussie ou ratée, c'est l'enjeu, c'est la vie, c'est la mort, avec cette épée de Damoclès qui est en permanence présente. Et puis moi j'avais le sentiment de revivre un peu ces films de Costa Gavras comme ça, comme Z ou autre, c'est-à-dire qui dit la vérité mais avec quand même le spectacle du cinéma, mais quand même avec une histoire racontée. Et en effet, j'ai été bouleversé par la dernière image dédiée à votre maman. J'ai dit, wow,
ça fonctionne très bien comme
c'est
ça.
Donc, c'est donc vrai. Et là, je me suis pris une claque. Bravo, en tout cas, c'est une réussite.
Ouais.
C'est
merci.
Bravo,
merci
félicitations. Beaucoup. Et embrassez vos enfants, hein, j'espère qu'ils jouent avec plaisir. Ça sera au cinéma, je rappelle, le 23 avril prochain. Voici Amandine Lourdel.
Ah, salut à tous, ça va bien. Écoutez, ça va. Semaine dernière, je suis tombée sur un article sur les animaux en voie d'extinction. Enfin, les animaux, quoi. Non, mais si on continue comme ça, bientôt, 30 millions d'amis, ça s'appellera... Non, t'inquiète, juste 2-3 potes, rien de fou. Bah là, c'est 1 million d'espèces en voie d'extinction. Hein. Et globalement, les gens n'en ont rien à carrer. Hein. Enfin, je veux dire, à part Hugo Clément et Brigitte Bardot, les Avengers de la biodiversité. Leur armure, une chemise bleu ciel assortie à un slip français et du rouge à lèvres qui a clairement pas été testé avant utilisation. Moi, je suis un orang-outan, je les vois débarquer, les deux, je me dis, on est foutu, Patrick. Fais-moi une tartine de Nutos, autant se foutre en l'air tout de suite. Mais au moins, Hugo et Brigitte, ils ont le mérite de se bouger le cul. Parce que nous, on voit deux images de koalas au milieu des flammes en Australie, on est hyper émus. Là, on reçoit un code promo -10% pour une robe shine en amiante, et tout à coup, on n'est plus du tout émus, on est juste émus, en fait. D'ailleurs, ils devraient le savoir, les animaux, qu'on n'en a rien à carrer. Déjà que même l'extinction de certains de nos congénères, globalement, ça nous en touche une sans faire bouger l'autre, on a bien vu avec les Palestiniens. Je veux dire, même l'Ukraine, je veux dire, nous, Français, au début de la guerre, on a un peu chié dans notre froc parce qu'on peut quasiment y aller en Thalys, mais ça n'a pas duré longtemps. Un reportage au JT de 13h sur la famille Kovalenko qui a été relogée à la Ferté-Bernard, des petits drapeaux jaunes et bleus sur les photos de profil, quelques blagues hilarantes sur le fait que Poutine est aussi une spécialité québécoise et on est vite passé à autre chose, quoi. Non, nous, on est des gens simples, attends. On fait pas multitâche. Tu nous fous une Saint-Patrick et le PSG en quart de finale, on oublie le reste du monde. En plus, avec les JO cette année, la charge mentale de dingue qu'on s'est pris, on était sous l'eau. Non, puis nous, ce qu'on préfère, c'est les chiens, quoi. Enfin, quand on les abandonne pas sur une aire d'autoroute entre deux sandwichs en triangle sur l'autoroute du soleil, quoi. C'est plus facile de se battre pour ceux qu'on connaît que ceux qu'on voit jamais. Je veux dire, des rhinocéros blancs, c'est comme des Soudanais, on n'en connaît pas personnellement, finalement. Et alors, durant mes recherches, je lis la liste des espèces en voie d'extinction. Enfin, la liste. Et là, je réalise qu'en fait, je suis sur le site du chasseur français. Et à côté de la liste, il y a le lièvre à la royale, une recette d'exception à la portée de tous. Je me suis sentie dans une légère dichotomie. C'est un peu comme quand tu fumes une clope avec un masque anti-pollution sur le visage. Attention, je suis pas en train de dire que les chasseurs sont à l'origine de l'extinction des espèces. Eux aussi souffriront de la destruction des espaces naturels. Bah, à mon avis, ça va être moins marrant de tirer sur un renard au milieu du parking d'Auchan caché derrière des poubelles. En plus, je voudrais pas avoir des ennuis, j'ai des projets de VTT dans le Luberon cet automne. Donc, entre la recette du civet de sanglier et de la terrine de chevreuil, alors, pour nos auditeurs de l'Est parisien, une terrine, c'est comme du mousse de betterave, mais avec du gras. Et un chevreuil, c'est comme un grand lévrier, mais avec des bâtons de cannelle sur la tête. J'apprends que, selon l'Union internationale de la conservation de la nature, le hérisson a été placé sur la liste rouge. Oh. Bon, en gros, pour un animal de la forêt, être placé sur liste rouge, ça veut clairement dire que t'es à deux promoteurs immobiliers de plus figurer dans l'annuaire du tout. Ce qui m'a vraiment brisé le cœur, parce que moi, j'ai grandi à côté de Nigloland. Vous savez, c'est un parc d'attractions, et la mascotte de Nigloland, c'est un hérisson qui s'appelle Niglo, parce que Niglo, ça veut dire hérisson en gitan. Et c'est quand même triste d'avoir un animal en voie d'extinction en mascotte, quoi. Bon, après, pour me consoler, je me suis dit, nous, on a bien Bérou en premier ministre, c'est un peu pareil. Il est à la ramasse, un peu. Bérou, tu te demandes s'il a pas monté un parti au centre parce qu'il a jamais trop su différencier sa droite de sa gauche. Dans quelle main, François? Bah, je sais pas, dans la poche. Et en même temps, après, tu sais, je me suis rappelé qu'une fois, quand on était petit avec mes frères et sœurs, on a trouvé un hérisson blessé qu'on a adopté. On l'avait appelé Jean-Luc, hein, parce qu'on l'avait trouvé au bord de la route et que dans mon village, il y avait un gars qui était tout le temps bourré qui s'appelait Jean-Luc et qu'on retrouvait aussi souvent au bord de la route. Et puis, un jour, je rentre de l'école, raide mort le Jean-Luc. Au début, j'ai cru que c'était Jean-Marie. Jean-Marie, c'était notre chat. On l'avait appelé comme ça parce qu'il lui manquait un œil et surtout parce qu'on l'avait trouvé au trou à ordures. Humour everywhere. En fait, non, notre petit Niglo, il était complètement desséché au soleil, grillé. On aurait dit une sexagénaire niçoise en fin de saison. Une vieille cagole, mais punk, tu sais, parce que coiffeur en pique. Bon, on l'a gardé quand même, on s'en est servi pour récurer les godasses. Bah, allez-y, blâmez-nous, on faisait de la récup, au moins. Et puis, en même temps, je me suis dit, une espèce qui est pas foutue de se foutre à l'ombre, bon, c'est peut-être la sélection naturelle. Quoique, avec le réchauffement climatique et notre inaction, est-ce que ce serait pas nous, l'espèce qui est pas foutue de se foutre à l'ombre? Hein, je vous laisse méditer là-dessus. J'ai un lièvre à la royale sur le feu. Merci d'avoir écouté.
Merci, Amandine Bourdet.
Elle est où, Amandine? Amandine sur scène tous les mardis à la Comédie de Paris. Le 3 mai, elle sera à Rouen pour son superbe spectacle. Ça va, Jean-Luc?
Julien Santini sera là tout à l'heure, ou tu veux déjà nous dire de quoi tu vas parler?
Oui, tout à fait. Je parlerai mouvement révolutionnaire de Mexico 86 à Bastia, il n'y a qu'un pas.
Eh bien, c'est en effet le film dont on parle aujourd'hui avec Bérénice Bejo, film réussi signé César Diaz au cinéma le 23 avril prochain. Moitié, Rebecca Malaise, Amandine Bourdel, Julien Santini.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Coucou Santini.
Et merci d'être comme tous les jours, Bérénice Bejo.
Bravo Bérénice.
La bande originale. Leïla Kadour et Nagui.
Un film qui est à la fois touchant, émouvant, familial, enfin l'histoire d'une famille. Après, on est plutôt dans un véritable thriller avec une tension, celle d'une révolutionnaire qui est à la fois fille d'eux et maman, et qui doit fuir le Guatemala. Elle est en danger parce qu'elle a pris les armes avec son mari, elle a un bébé, elle vient d'assister à l'assassinat par la police de son mari, et donc il faut fuir, confier le bébé à sa mère ou à la grand-mère du bébé et prendre les armes, partir pour le Mexique, retrouver l'enfant quelques années après quand il a une dizaine d'années, et essayer de conjuguer sa vie de maman avec son combat de militante, de fournir des armes, d'aller dans des lieux de rendez-vous où on se dit que à tout moment on peut être surprise, on peut être arrêté, on peut être torturé. Il y a une vraie complicité de la police mexicaine avec celle du Guatemala.
Tout à fait, oui.
Et cette proximité est un véritable danger. Et les deux armes dont elle va servir, finalement, c'est le journal, la plume, les idées, ouais, et les armes et l'action.
Oui, tout à fait.
Avec cette menace permanente d'être révélée, d'être balancée, soit par l'école où son enfant va, soit par la rédaction où elle travaille, soit par un inconnu qui la file dans la rue.
Oui, de toute manière, tout seul, on peut pas faire grand-chose. Donc c'est à travers le journal, en diffusant des idées, en alertant
l'opinion
publique, qu'on peut faire changer les choses.
Oui, et puis il faut faire confiance avec celui ou celle avec laquelle on est dans le combat. Donc est-ce que quelqu'un va balancer aussi
Après, on ne dit pas et on ne se raconte pas vraiment. C'est-à-dire qu'on a des noms de contacts, on donne pas son adresse.
Vous envoyez des cassettes?
Oui, alors pour parler avec sa famille, ils envoyaient des cassettes. C'est assez joli. On envoie des petites cassettes audio aux gens qu'on aime. C'est comme ça qu'on prend des nouvelles et qu'on en reçoit.
Et on est aussi dans une sorte d'armée. Elle est révolutionnaire, donc il y a des supérieurs, il y a des ordres, il y a des interdictions.
Oui, c'est organisé de toute manière,
c'est ça.
Bien sûr. Oui.
Et parmi ces ordres, il y a le supérieur qui ne veut pas, qui pense que cet enfant est un danger pour toute cette armée révolutionnaire, et donc pour vous, et qui pousse
à ce qu'il
aille. Il a raison, parce que si
elle ne veut pas.
Oui, si on a un enfant et qu'on le sait, qu'on a un enfant, il peut être capturé, torturé pour avoir des informations, pour que je révèle des informations. C'est un moyen de pression, en fait. Donc, il faut absolument que cet enfant ne reste pas avec moi, pour ne pas mettre toute l'organisation en danger.
Film avec une tension incroyable, film qui raconte des histoires vraies, au-delà de l'histoire vraie de cette famille, c'est aussi l'histoire vraie d'un combat pour la liberté, pour la démocratie, pour cette révolution qui a porté ses fruits, et César Diaz tout à l'heure nous en a parlé en venant à ce micro. Matteo Labbé est aux côtés de vous dans ce casting, Leonardo Ortiz-Gris et Giulietta Egurola qui joue le rôle de votre maman, ça s'appelle Mexico Mexico 86 sera le 23 avril prochain au cinéma. Voici Julien. Oh,
bonjour. Bravo. Merci beaucoup. Merci infiniment. Alors, déjà, bravo Bérénice, vous êtes fantastique et le film est bouleversant, mais du coup, ça ne m'arrange pas. J'ai remarqué que quand le sujet est poignant, faire des blagues juste après, comme la dernière fois, je rencontre mon voisin Bernard, et là. Bon, là, j'ai pas forcément la fin de l'anecdote. Bref, c'est dur. C'est pour ça que moi, en général, dans la bande originale, mes invités préférés, c'est les chefs cuistots. Je trouve qu'il n'y a aucun enjeu. Alors, attention, je les respecte, mais gastronomie et humour font bon ménage. Oh putain, je tente un personnage. Oh putain, c'est tout bouillabaisse, hein, qu'est-ce qu'il y a bon, fan de chicha. Vas-y, sale tellement, raconte-toi tes conneries, oh. C'était un mélange de plusieurs accents du
rural. On cherche encore.
Merci, Nagui. Il y a du rural, il y a de l'urbain. Bon, je suis pas en train de me justifier, hein, mais il y a un grand philosophe qui un jour a sorti en conférence de presse qui se justifie s'accuse. Florian Thauvin. Florian Thauvin, qui d'ailleurs a joué au Mexique. Est-ce que vous la sentez venir, cette transition de malade? Et ouais, les gars, je m'adresse aux copains et aux copines de la bande, la chroniqueuse, ouais, aux chanteurs de bal, à David Copperfield, sa race, et aux deux autres. On est pour sur le midi 10, sur les pas le roi des transitions, fente de chiche. Donc, là, le sujet du film. Vous interprétez une activiste... merci Bérénice, c'est votre première... De interpréter... Mais c'est bien. C'est tard, mais c'est bien. Vous interprétez une activiste... Soyez avec moi, Bérénice, vous fermez les yeux, dis-moi. Donc, vous interprétez une activiste révolutionnaire. Et moi, si je peux faire un parallèle, j'ai grandi en Corse. Donc, c'est autre chose, mais les mouvements révolutionnaires, je connais.
C'est vrai.
Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote. Mais ma mère occupait des fonctions administratives très importantes en Corse, et il se trouve que notre voiture a explosé dans un attentat au milieu des années 90. Alors, je vous le dis tout de suite, c'est vrai, parce que je sais que là, la première question, ça va être « Non, mais c'est vrai !» Je ne vois pas quel intérêt j'aurais à mentir. Je serais vraiment un grand mythomane de raconter des trucs faux comme ça, et en plus, j'ai pas le cœur à mentir ce matin. Figurez-vous que mon histoire d'amour avec Lady Gaga vient de s'arrêter. Donc, bien sûr, Lady Gaga, c'est faux, c'était une vanne qui a pas vraiment marché, a été compris. Mais c'est faux. Mais l'attentat, c'est vrai. D'ailleurs, de la voiture en question, il n'est resté que la cassette de Patricia Cass. Et souvent, quand je raconte cette... Vous voyez, la preuve. Quand je raconte cette anecdote, je vois qu'il n'y a que ça qui retient l'attention des gens. Personne, par contre, ne se soucie et ne pose de questions sur ma mère. Donc, je rassure tout le monde, ma mère, comme tous les personnels de ce jour-là de cette administration, vont bien. Ils ont été prévenus par des tracts qui tombent du ciel dans ces cas-là, qui disent, on vous conseille de sortir de cet immeuble très vite et de ne pas prendre la voiture. Et c'est ça que j'ai toujours aimé avec la Corse, c'est que c'est des gens, ils sont chauds, certes, mais ils font les choses bien. Donc, moi, ce qui m'a mis la puce à l'oreille ce jour-là, c'est que j'allais à mon entraînement de foot, parce que j'ai fait du foot dans un club qui s'appelle l'AJ Bigoule. AJ Bigoule. Il y avait trois équipes dans ce club, la 1, la 2 et la 3. Et moi, j'étais entre la 2 et la 3. Pas un seul match en équipe 1 à mon actif. Et je le vivais très mal, parce qu'en fait, à la fin, je devais être titulaire dans la 2. En fait, je me suis retrouvé à la 3 parce que l'entraîneur, qui était copain avec le PR, putain, je suis dégoûté, putain, la robe. Tu me l'as volé au centre-toi à ma place, salaud! Pardon, j'étais en train d'être dans mon... J'ai été victime d'une injustice. Et en fait, quand on est HPI, en fait, j'étais en train d'être dans mon bus qui m'amène à l'entraînement. Et je vois qu'à travers la vitre, je vois ma mère au passage piéton. Et si vous voulez, c'était une heure où je savais très bien que ma mère était au travail. Elle était d'ailleurs avec quelqu'un que je ne connaissais pas sur ce passage piéton. Et le soir à la maison, j'ai dit « Maman, comment ça se fait que je t'ai vu en ville tout à l'heure ?» Et là, elle m'a dit « Figure-toi qu'il est arrivé quelque chose de grave. La voiture a explosé. Mais bonne nouvelle, la cassette de Patricia Cass est intacte. » Et après, j'ai dit, et c'est flou, mais je m'en rappelle, mais sinon, c'était qui ce monsieur à côté de toi? Et là, j'ai absolument rien compris. Parce que j'avais 10 ans, mon père s'est énervé. Ah, tu le revois encore, c'est ça? Bref, c'est vraiment, c'était... Alors ça, c'est faux. Je sais, c'est pas forcément facile, hein, depuis le début, de tirer le vrai du faux. Je suis désolé, mais en fait, je travaille beaucoup ça avec mon meilleur ami en ce moment, qui la dernière fois que je l'ai vu, m'a dit, vous savez, monsieur Santini, si vous réussissez à distinguer... C'est un rapport compliqué, hein, dans le sens où je vous vois et je le paye, mais si vous réussissez à distinguer l'imaginaire, la réalité, vous allez gagner à tous les coups. Et ça devient presque un jeu en ce moment pour moi de dire ce qui est vrai de ce qui est faux. Et avant de partir, je voulais juste vous donner deux informations. La première, c'est que je le redis, Bérénice, vous êtes une personnalité solaire, magnifique actrice, et je vous souhaite le meilleur pour votre film. C'est sincère et c'est vrai. Et la deuxième information, avant de partir, juste vous annoncer, c'est que c'était ma dernière chronique sur France Inter. Je suis désolé de vous dire comme ça, sachant qu'en plus, pour le coup, c'est faux.
Julien Santini.
Sur scène jeudi le 31 mai, il sera Ajaccio. En Corse, à l'Empire. Merci de mettre une petite
merci
séparation. Et deux fois par semaine à 19h au théâtre de la Gaîté Montparnasse.
Merci Dani.
Je crois qu'il y avait un Patricia Cass qui passait pendant. C'était ça. Tu l'as, Patricia Cass, ou pas? Mais non.
Ça, c'est un bel hommage.
Je sais pas si c'est la cassette en question, par contre.
C'est un bel hommage pour ma mère. Quand elle va écouter, en plus, elle va être très gênée de ce que j'ai raconté. Et comme c'est vrai, merci de l'hommage.
Mais non, mais je t'en prie. Écoute.
C'est comme le ciel étendu sans nuance. Je sais tout simplement que l'on oublie.
En même temps, je comprends pourquoi j'ai essayé de faire sauter la bagnole.
C'est pas le duo la plus connu. En fait.
C'était l'heure où tout a basculé. Ah,
oh.
Pas mal, hein.
Ouais.
Oh là, c'est
ah, c'est le talent éditorial de cette émission. Tout
ah ouais, c'est fou.
C'est fou, c'est fou, c'est fou.
Bravo.
Le film sort ce 23 avril, donc César Diaz en est le réalisateur, porté par Bérénice Bejo, Mexico 86. Oui, il y a aussi cette Coupe du Monde, il y a juste une allusion, une promesse faite d'une maman à son fils en disant on ira voir un match de la Coupe du Monde de football comme une carotte comme ça pour dire non, rassure-toi, tout va bien, on va avoir une vie normale, ce qui est loin d'être le cas, ce qui donne un film tendu et totalement bouleversant.
Il y a une scène de foot aussi avec une séance de tir au but entre son beau-père et le petit qui se prend.
La vérité, c'est qu'en fait, on devait avoir beaucoup plus de trucs sur. On devait voir plus de supporters quand je suis dans la voiture, par exemple, et je vois toute cette ville qui vit au rythme de cette Coupe du Monde, alors que elle est en train de se battre pour que ça puisse exister.
Ouais, bien sûr.
Et c'est vraiment rendre hommage à ces gens-là, c'est-à-dire qu'ils se battent, vraiment, ils se sacrifient pour les autres, quoi.
Non, mais ce qui est fou, c'est que c'est surtout un moment où toutes les caméras, tous les journalistes sont focalisés sur le Mexique et sur un terrain de foot.
Et le pays d'à côté, voilà. Il y a des horreurs qui se passent.
Totalement ignorées. Et occulté.
Mais bon, vous parliez tout à l'heure de.
Ça va pas changer. Enfin,
de.
Oui, de
bonjour.
De voiture. des Jeux Olympiques.
De chevalier.
Non, des Jeux Olympiques l'année dernière, pendant qu'il y a la guerre en Ukraine, la guerre à Gaza. Et c'est vrai que.
Mais la Coupe du Monde
en Argentine.
Au Qatar ou
en Argentine.
Ou en Argentine.
Oui, voilà. Donc ça, c'est. Bon, après, c'est humain, quoi. Il y a des. Heureusement qu'il y a des gens qui.
Enfin, vivement que la prochaine Coupe du Monde qui aura lieu. Entre le Mexique, le Canada et les États-Unis, trois pays qui s'entendent tellement bien
en ce moment.
Ça va être
comme ça.
Magie.
Depuis quand faut s'entendre?
Oui. Bah là,
mais c'est difficile quand on est.
Quand tu vas voir les footeurs sauter par le dessus le mur du Mexique pour aller jouer un match, ça va être particulier quand même. Y compris le déplacement des fans, des supporters, ça va être d'une tension, d'une électricité incroyable. Revenons à ce Mexico 86, donc le film.
Je voulais juste dire que je trouve que c'est difficile de justement d'être militante comme ça et de voir le monde autour vivre. Il y a forcément une partie de toi qui déteste ces gens-là aussi. Tu dis, mais attendez, mais pourquoi vous n'êtes pas avec moi, là? Et c'est vrai que je lisais un livre sur un soldat ukrainien qui raconte ça, justement. Qui disait que lui, il est sur le front, qu'il a emmené sa femme et ses petits-enfants en bas âge en dehors de l'Ukraine, et que petit à petit, il a coupé les ponts avec toute sa bande d'amis, parce que personne ne s'était engagé, et que ses amis, c'était devenu c'est les soldats avec qui il était là en ce moment, en train de se battre pour essayer que l'Ukraine continue à exister. Et que...
Il ne comprend pas pourquoi...
C'est pas qu'il comprend pas, il essaye de pas juger, mais effectivement, c'est compliqué, quoi.
Il y a plusieurs choix, résister, s'exiler, la résistance, elle peut être de diverses manières, on est peut-être plus utile ailleurs, justement.
Oui, mais en même temps, il dit que lui, il préfère mourir l'arme à la main, plutôt que mourir de honte de n'avoir rien fait.
Et chacun peut se poser la question qu'est-ce qu'on aurait fait si...
Il y en a qui sont courageux, il y en a qui sont plus courageux que d'autres, et heureusement, et qu'est-ce qu'on... Voilà. On peut pas juger ceux qui n'y arrivent pas, en fait, finalement.
D'autres événements culturels, Leïla.
On cherche une série, un thriller créé en 2016 qui nous permet de constater à quel point la démocratie est une petite chose fragile. Cela pourrait être même un documentaire, tellement cette série met en scène les jeux de pouvoir qui sont plus vrais que nature. Baron Noir, absolument, Daniel. La bonne nouvelle, c'est que Baron Noir...
Revient.
La saison 4 est annoncée. Que va devenir la France? On le verra bien avec Baron Noir, sachant qu'on a perdu une présidente de la République.
Ah bon?
vous l'avez pas vu. Donc la saison 3.
Ah, pardon.
J'ai vu
ce qui s'est passé, le malentendu, c'était drôle.
J'étais gêné.
Chagrin de la décision de jouer.
Mais c'est ça.
Elle était dégoûtée.
Non, moi j'étais gênée aussi, en fait. C'est pour ça que je ne comprenais pas, j'y allais où la perdue.
Écoutez, non, je vais rien dire. Baron Noir, la saison 4, je n'ai pas le droit de m'exprimer sur le sujet. Baron Noir, la saison 4, le retour avec Cadmerade, ça c'est sûr. On verra ce que nous réservent les scénaristes un peu fous et de génie de cette série qui a quand même marqué là aussi la création française avec des engrenages. C'est vraiment des séries comme ça qui comptent énormément. Je m'étonne, Bérénice, je ne vous ai jamais vu dans une série.
Non, pas encore.
C'est vrai, hein?
Ouais, pas encore. Alors peut-être bientôt.
Comment ça?
Non, bah c'est tout.
Je peux pas
donner plus d'infos.
Non, mais déjà, s'il y a, là, s'il y a sous la scène 2, ça,
c'est un mais début c'est pas une série. Ah oui, bah oui,
c'est la suite de la saga.
C'est vrai que, bah, il faut choisir la bonne série, le bon, ouais, voilà, c'est pas encore arrivé, mais ça devrait pas tarder.
Ça, en tout cas, c'est un format, une narration.
En réalité, c'est une envie qui est arrivée. C'est-à-dire que vraiment, je n'en avais pas envie, je sais pas du tout mon truc, je regarde très peu de séries.
Pourquoi c'est arrivé cette envie? Qu'est-ce que ça permet de la série?
Parce que j'ai fait Série Mania l'année dernière, et que ça faisait plusieurs années qu'ils me demandaient. Je disais, mais je vais pas être jury d'un festival alors que je regarde pas de séries. Et en fait j'ai vraiment adoré. D'abord le festival, il est génial, et ensuite j'ai découvert des séries, ça m'a plu, voilà, il y a un truc qui s'est passé. Ça va venir. Peut-être pour mes 50 ans, il faut bien première fois, voilà. Une à 40, une à 50,
tous les 10 ans, vivement les 60.
Ouais, même les 60, bien sûr.
Autre question, on va parler de femmes qui résistent, un petit clin d'œil en hommage à la maman de César Diaz, des femmes qui ont fui leur pays et qui ont pu venir en France grâce à l'intervention de directeurs de théâtre. Savez-vous de quelle nationalité je parle quand je parle de ces femmes?
C'est pas les Ukrainiens?
Non.
Non.
Les Russes?
Elles sont jusqu'au 13 avril au Théâtre des Bouffes du Nord. Elles interprètent Les Messagères d'après Sophocle, mise en scène par Jean Bellorini. Elles ont fui en août 2021. Absolument, des Afghanes. Elles sont 9, elles forment une troupe de théâtre et elles ont été rapatriées grâce à l'intervention de directeurs de théâtre français qui ont proposé des résidences masquées, puisque ce sont depuis août 2021 où elles ont fui, elles sont restées en France. Elles jouent en ce moment au théâtre du Sophocle, Antigone, et tout d'un coup, forcément, il y a des pièces qui prennent plus de sens que d'autres, quand on lutte contre Créon, contre l'occupant, contre des règles qu'on ne veut pas admettre parce qu'on estime qu'il y a des règles supérieures. C'était des artistes qui étaient menacés. Elles racontent comment, à cette période-là, elles ont dû quitter Kaboul. Et c'est très très proche de la série qu'on a pu voir, Kaboul, avec Jonathan Zakaï. Vraiment, elles racontent comment elles se sont agglutinées devant les ambassades, comment elles ont essayé de survivre. Elles sont 9, elles sont sur scène. Il faut aller les découvrir, parce que c'est aussi une façon de raconter comment, par la culture, on peut aussi résister, même si, comme le fait remarquer une journaliste qui a fait un article sur la pièce... En sortant du théâtre, il n'est pas impossible de croiser sous des ponts, dans ce quartier à côté des Bouffes du Nord, des Afghans eux aussi, qui dorment dehors. Voilà. Je pète l'ambiance, pardon.
Il faut en parler.
Il y a un podcast génial qui s'appelle Inside Kaboul, d'ailleurs. Qui est extraordinaire, sur deux filles de 20 ans, une qui reste et une qui part.
Oui.
Et on les suit, et elles envoient des vocaux à la journaliste. Je sais pas si vous l'avez.
Ah, c'est Caroline Gillet, sur Twitter. Elle fait des trucs super.
Incroyable.
Le 23 avril, sortie de Mexico 86, ce film que nous vous encourageons à voir, pour une histoire de transmission, une histoire de combat, une histoire de famille et d'un amour pour la vie, pour la liberté. Parce que finalement, elle risque sa vie, elle risque la vie de son enfant pour un monde meilleur pour son enfant ou pour d'autres enfants aussi. Parce que ce combat, il est décidé, il est dans ses veines, même si elle n'est pas jugée par sa propre mère. Mais en tout cas, elle bluffe tout le monde par sa volonté de, ouais, de se battre. Elle est impressionnante, de force.
Elle est assez impressionnante et au départ, César avait coupé 2-3 scènes où on la voit pleurer.
Ah oui.
La scène de la cassette, notamment une scène dans une cabine téléphonique où elle appelle sa maman, qui est au Guatemala. Et je lui avais dit, tu sais, César, elle est tellement déterminée que si on ne voit pas des moments où elle craque seule, on ne va pas pouvoir rentrer vraiment en elle.
Mais elle le fait seule, justement.
Et elle le fait seule. Et il les a remises et je suis contente parce que c'est vraiment un film. Bon, je dis ça un peu en rigolant, mais si vous ne m'aimez pas, il ne faut pas aller voir le film. Parce que c'est vraiment. Non, mais c'est vrai.
Comment ne pas vous aimer?
Bah si, il y a des trucs. Mais
non,
c'est
mais
gentil.
Vous avez des perruques.
Ouais, j'ai des perruques. Voilà. Si vous m'aimez pas comme
moi, je trouve
ça,
que c'est un bon argument. Mais c'est un film à perruques, franchement.
On rentre vraiment dans...
La baseline. Ouais. Allez voir Mexico 86. C'est la perruque.
Mais c'est vraiment un film où on rentre dans la tête de cette femme. On est vraiment dans... Je sais pas, je trouve que le montage et comment il a filmé la lumière, il y a quelque chose où petit à petit, on est dans ses questionnements, dans ses doutes, dans ses souffrances.
Non, c'est réussi. Ouais.
Et vraiment, c'est réussi. Ouais.
Le 28 mai prochain, vous serez à l'affiche de Another End de Piero Messina. C'est
oui,
ça. Avec Gaël Garcia Bernal. En quelle langue vous avez tourné là?
En espagnol et en anglais, je crois.
Et quel personnage jouez-vous?
Je crois.
Eh bien, c'est un film de science-fiction, disons. Okay. Et c'est un film qui parle de. En fait, du. Quand les gens meurent, il y a une entreprise qui est créée et on peut refaire naître les gens qui sont morts.
Il y a un logiciel qui permet.
On les ramène à la vie.
Exactement. Ouais. C'est un film qui questionne le fait de se dire, bah, parfois on n'a pas le temps de dire au revoir. Mm. Et est-ce que tout d'un coup de redonner une chance et recréer des gens grâce à un logiciel et leur se permettre de leur dire au revoir en fait. Mm. C'est sur la mort, sur ça fait longtemps que je l'ai vu.
Et il sort le 28 mai.
Il sort le 28.
Vous pourrez le revoir le 28 mai.
Ouais, moi je pourrais le revoir. Non, mais c'est un beau film. Mais Piero Messina, je sais pas si vous avez vu son premier film, La Stessa, avec Juliette Binoche. C'était aussi sur la mort. Il a beaucoup de questionnements sur la mort, le deuil. C'est un très beau film.
Et comment rattraper les erreurs commises juste avant et pouvoir dire au revoir comme on aimerait le faire.
Mais finalement, est-ce que c'est pas dire deux, enfin, c'est pas perdre deux fois la personne.
Quand quelqu'un meurt et quand il renaît.
Deux fois
le deuil.
Voilà,
ouais. Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Déjà, alors, désolé pour César Diaz, le réalisateur de Mexico 86, qui a entendu son héroïne parler de perruques bon, pas de gamme, des scènes où il manquait des plans, de courses poursuites sur 40 mètres, du manque de budget.
C'est pas vendu.
Ah, elle est rue de la Bérénice et encore en off, elle nous a confié qu'elle avait très mal mangé et que la literie de l'hôtel était dégueulasse. Super, la grande famille du cinéma. Désolé pour les parents de Bérénice Bejo qui ce soir avaient prévu un petit resto tranquillou, petit resto, une petite balade à la fraîche et pourquoi pas manger une petite glace en terrasse et qui n'avaient pas du tout, mais du tout envie d'aller au cinéma. Bah c'est raté les Bejo, hein, c'est mort ce soir, c'est cinoche obligatoire, hein, c'est Bérénice qui l'a dit, donc vous pouvez plus dire non. En même temps, vous rentrez dans la salle, quand ça commence vous ressortez discretos, direction chez Flunch ou bien Buffalo Grill si on part sur un plan régalade. Désolé pour tous ceux enfin qui croyaient encore en Bérénice Bejo et qui ce matin ont assisté, ont été témoins de la chute de leur idole. On peut plus rien cacher. Hein. Bérénice, elle est en bout de piste. Elle arrive à peine à parler. Et quand elle y arrive, elle ne met pas les consonnes. Ça n'a aucun sens. Moi, je pense hein, personnellement qu'il lui faut un petit break. Disons une petite pause de 10-15 ans. Après, elle nous reviendra en pleine forme. Ou pas.
Merci.
Hey
non.
Si,
passez un bon week-end. Et dès la semaine prochaine, Leïla et la bande vous recevront. Laura Felpin,
Hakim Gemili, Benjamin Laverne,
Merabedia,
Victoria,
Victoria,
les gens qui savent parler quoi.
Eric Zemmour, Michel
Platini. Ça va être dingue. Ouais. Moi, j'ai besoin de me reposer après avoir rencontré les gens. On voulait pas vous le dire.
Je suis désolée, auditeur, je suis désolée.
Merci.
Merci mille fois, Bérénice.
Merci à vous.
Et n'oubliez pas donc Mexico 86 au cinéma le 23 avril. Bonne journée sur Inter.